France Culture.
Bonjour à tous, il est 9h. Quelle situation pour la Syrie, 6 mois jour pour jour après la chute du régime de Bachar el-Assad. La fuite du dictateur en Russie n'empêche pas ses troupes de garder les armes. Reportage en immersion sur la côte ouest de la Syrie avec notre correspondante. En Italie, c'est jour de vote aujourd'hui et demain pour des référendums d'initiative populaire initiés par plus de 500 000 citoyens. L'une des mesures phares du référendum porte sur l'immigration. Elle divise électeurs et partis. En France, l'État au secours de l'historique papeterie normande, la chapelle d'Arblay en Seine-Maritime, fermée depuis 5 ans. Et puis un tour à Nice, à la veille de la conférence des Nations Unies sur les océans, qui ouvre lundi. 50 chefs d'État attendus. Emmanuel Macron veut en faire une vitrine pour le climat. C'était le 8 décembre dernier, quand les troupes rebelles rentraient dans Damas sur des chars pour mettre fin à plus de 50 ans de règne du clan Assad en Syrie. Depuis, l'ex-dictateur Bachar el-Assad s'est envolé en Russie et le nouveau président par intérim, Ahmed al-Shara, s'ouvre à l'Occident, avec notamment sa première visite d'État en France en mai dernier. Aujourd'hui, le pays essaye de se reconstruire après 14 ans de guerre, mais sur la côte ouest, au bord de la Méditerranée, les groupes loyalistes à l'ancien régime continuent d'appeler à la contre-insurrection armée. Sur place, les attaques contre la sécurité générale du nouveau gouvernement et contre les activistes sont fréquentes. La correspondance en Syrie de Manon Chaplin.
Ahmad, membre de la sécurité générale, attrape sa kalachnikov, puis jette des regards inquiets autour de lui. Au loin, des tirs résonnent en écho dans les montagnes alaouites, des bruits sourds devenus quotidiens depuis ce checkpoint, monté à l'entrée du village d'origine du clan Assad.
Ce sont les loyalistes au clan Assad, c'est la plus grosse menace aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui se cachent dans la région, ces tirs, c'est fréquent. Ils ciblent les civils, les points de contrôle.
Depuis la chute du régime de Bachar el-Assad, ils sont des centaines à préparer une contre-insurrection. Près de la côte, à se cacher dans les montagnes, les fermes et les maisons.
On a un service de renseignement qui travaille activement pour les rechercher, pour suivre leurs mouvements. On fouille régulièrement la région et on trouve tous les 2 ou 3 jours une cache d'armes. Car oui, il y a beaucoup d'armes.
Ahmad poursuit. 40 membres de la sécurité générale ont été tués dans ce village ces derniers mois. Nada et Walid, eux, sont journalistes alaouites, opposants de longue date au régime de Bachar el-Assad et victimes de 10 tentatives d'assassinat.
Ils ont essayé de me tuer ici il y a un mois. Ils ont tiré en direction de mon bureau. Je me suis mise à terre. Puis la sécurité générale est arrivée. Ils ont également filmé ma maison, mis mon adresse en ligne. Depuis, j'ai peur.
Soudain, de l'autre côté du mur de leur bureau, une explosion, puis des tirs.
Éteins la lumière.
Le visage de Nada se crispe, devient livide. Cache-toi, glisse-t-elle à Walid. Peut-être viennent-ils à nouveau nous chercher.
Manon Chaplin en Syrie pour France Culture. Pour rappel, en mars dernier, il y a eu 1700 morts dans les affrontements entre les forces de sécurité et les hommes fidèles à Bachar el-Assad. Une majorité de civils alaouites ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À Gaza, de nouveaux tirs israéliens à proximité d'un centre d'aide humanitaire hier. 6 personnes sont mortes, plusieurs autres blessées, selon la défense civile gazaoui. Les habitants s'étaient rassemblés pour obtenir de la nourriture près d'un centre américain. En tout, 36 personnes ont été tuées samedi par les forces israéliennes dans différents endroits de l'enclave palestinienne. Le Rwanda annonce quitter la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Décision prise lors du 26e sommet de l'organisation qui se réunit en Guinée équatoriale en ce moment. Le Rwanda devait accéder à la présidence tournante de l'organisme cette année, mais plusieurs pays s'y opposent, dont la République démocratique du Congo, qui accuse le Rwanda de financer le M23, cette armée rebelle qui agit en RDC et commet des violences sur les civils. La Guinée équatoriale garde donc la présidence de la communauté économique des États de l'Afrique centrale en prolongeant son exercice d'une année supplémentaire. Direction les isoloirs pour les Italiens. Aujourd'hui et demain, où se tient un référendum d'initiative citoyenne, les Italiens doivent se prononcer sur une réforme visant à modifier l'accès à la citoyenneté. Aujourd'hui, la règle est l'une des plus strictes d'Europe. Pour une personne étrangère, il faut avoir passé au moins 10 ans sur le sol italien pour obtenir cette nationalité. Le référendum propose donc de passer le délai à 5 ans. Une mesure qui permettrait à des millions de personnes de s'intégrer. À Rome, Bruno Duvic.
Lorenzo est né il y a 20 ans en Italie.
J'ai grandi ici, je pense, j'aime, je vis en italien.
Mais de parents roumains. Pour lui, qui rêve de politique, impossible de voter aux élections nationales ou d'accéder aux concours publics. Et encore, la Roumanie est dans l'Union européenne, les délais sont plus courts pour obtenir le passeport. Pour Khaled, 28 ans, ingénieur, arrivé d'Égypte il y a 13 ans avec une bourse d'études, c'est plus difficile.
La différence, c'est la liberté de mouvement et la possibilité d'être traité comme tes collègues à l'école ou à l'université.
Car les 10 ans de présence continue obligatoire en Italie compliquent le moindre séjour à l'étranger. Plus le temps de la bureaucratie, il vient tout juste d'obtenir son passeport. La loi remonte à l'époque où ceux qu'on appelait les Rital émigraient. Le droit du sang permettait de garder un lien. Aujourd'hui, avec plus de 5 millions d'étrangers, l'Italie est aussi un pays d'arrivée. Michele Colucci est historien de l'immigration.
Ils sont pleinement insérés dans l'économie, à l'école, dans le monde de l'art, du sport. Il y a une contradiction entre cette présence structurelle et une classe dirigeante qui la considère toujours comme une anomalie.
Les partis de la majorité Meloni appellent à l'abstention. S'il y a moins de 50% de participation, la loi ne changera pas.
En France, une semaine après l'assassinat d'Hichem Mirawi dans le Var, ce Tunisien tué par son voisin alors qu'il était dans son appartement, deux marches blanches ont lieu aujourd'hui, l'une à Marseille, l'autre à Puget-sur-Argens, près de Fréjus, dans la ville où le quadragénaire a été assassiné. Ce matin, chez nos confrères de France Info, la cousine de la victime, Minou Mirawi, appelle à une marche pacifiste. C'est une grande victoire pour les syndicats normands après l'annonce hier du gouvernement d'investir 52 millions d'euros dans l'usine de papier recyclé Chapelle d'Arblay à Grande-Couronne en Seine-Maritime. La CGT en particulier luttait pour une reprise depuis 5 ans de l'activité. L'usine a été fermée en 2020 à cause d'une baisse de la consommation de papier de presse et des magazines avec une chute des ventes. Luc Chemla, 52 millions d'euros de l'État dans le projet de reprise porté par Fibre Excellence, filiale française d'un grand groupe canadien.
Oui, via une entrée au capital à hauteur de 27 millions d'euros, puis avec un accompagnement à travers notamment des appels à projets et aide au développement pour un total de 25 millions. En fait, c'est la conclusion d'années de combat de la part notamment des élus locaux et syndicats, car après sa fermeture et le licenciement de près de 230 salariés, un projet de reprise voit le jour. Fibre Excellence se positionne et acquiert même le site 2 ans plus tard avec Veolia. Selon les syndicats, le Premier ministre Jean Castex s'engage à l'époque à ce que l'État soutienne le projet, mais concrètement, rien n'avance à cause notamment des changements successifs de gouvernement. L'industriel menace à plusieurs reprises de tout arrêter, mais n'abandonne finalement pas le projet et vient donc d'obtenir le tant attendu soutien de l'État, qui est toutefois conditionné à une levée de fonds privés, 160 millions d'euros que doit trouver Fibre Excellence. Mais la CGT soulagée se veut confiante maintenant que l'État est entré au capital. Environ 200 emplois sont à la clé et la remise en activité du site est prévue d'après les syndicats à l'horizon 2028.
Explication Luc Chemla. Emmanuel Macron attendu aujourd'hui à Nice en fin d'après-midi. À la veille de l'ouverture du troisième sommet des Nations Unies sur l'océan, comment mieux protéger les océans. C'est le sujet qui va être étudié par plus de 50 chefs d'État et notamment par les peuples autochtones, comme en Polynésie française, un territoire qui possède plus de 5 millions de kilomètres carrés d'océan. Pour cette région qui base son économie et sa vie sur l'océan, la protection est vitale. Martel Moetai Brotherson, c'est le président de la Polynésie française.
C'est tout simplement rappeler au monde qu'une respiration sur deux, on la doit à l'océan. Et qu'au-delà de la gestion des ressources qui nous servent à nous alimenter, l'océan, c'est aussi l'énergie thermique des mers qui est peut-être une des solutions de demain pour se départir des énergies fossiles. L'océan, c'est malheureusement aussi beaucoup de convoitises, notamment avec tout ce qui est au fond de nos océans. On voit aujourd'hui certaines entreprises qui veulent court-circuiter l'autorité internationale des fonds marins pour obtenir d'un certain président une autorisation d'aller chercher des nodules et autres terres rares dans la zone de Clipperton. Et pas loin de nous, les îles Cook, Rarotonga. Nous, nous nous opposons fermement à toute forme d'exploitation des minerais subocéaniques parce qu'il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. avec des choses qu'on ne maîtrise pas. On a envoyé plus de gens sur la Lune que dans ces profondeurs-là. Et donc, il faut rester humble par rapport à la nature en général et particulièrement par rapport à l'océan.
Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, répondait à Cécile de Kervas-Doué. Un passage en cuisine ce dimanche pour le retour du Refugee Food Festival qui organise des grands banquets au fourneau avec des personnes sans papier ou réfugiés pour cuisiner dans le but d'une insertion professionnelle et sociale. Festival présent dans 12 villes qui fête ses 10 ans cette année. À cette occasion, nous recevrons dans le journal de 12h30 sa cofondatrice Marine Mandrila. La météo de ce matin, éclaircie, soleil dans toute la moitié ouest de la France et dans le quart sud-est, de la pluie dans le Grand Est, en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Les températures comprises entre 14 et 23 degrés ce matin, 16 à Rennes, 14 à Lille, 16 à Paris, 17 à Limoges et 23 à Marseille. France Culture, 9h10, l'heure de Talmudic par Marc-Alain Waknin. Prochain journal à 10h.
Talmudic. Si sécularisées qu'elles soient, nos sociétés occidentales restent imprégnées de 20 siècles de christianisme et en particulier de l'idée que l'amour ne nous veut et ne nous fait que du bien. Cependant, si l'amour peut engendrer le bien et le bonheur, il peut aussi engendrer des pathologies terribles, car comme le montre si bien l'actualité et des pans entiers de la littérature et du texte biblique, l'amour peut mentir, se mentir et nuire très profondément. Il existe des ambiguïtés et des perversions potentielles de l'amour, et c'est à ces dangers de l'amour non accompagné d'une éthique de l'altérité, non bordée par la justice et la justesse de la loi, que nous invite à réfléchir la théologienne Paul Zelitsch et le philosophe Jean-François Boutor dans un livre remarquable intitulé « Aime et ne fais pas ce que tu veux » paru aux éditions Le Comte d'Authieret. Paul Zelitsch, Jean-François Boutor, bonjour.
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 Paul Zelitsch, vous êtes théologienne et présidente de la Conférence catholique des baptisés francophones, la CCBF. Jean-François Boutor, vous êtes philosophe, spécialiste de la démocratie, journaliste et essayiste, collaborateur de la revue Esprit et éditorialiste à Ouest-France. Vous êtes tous les deux cofondateurs et animateurs de l'atelier de lecture biblique dans lequel vous relisez les textes bibliques à partir de l'hébreu et vous avez été amené, entre autres, à vous confronter à cette question essentielle des dangers de l'amour et à comprendre comment l'amour sans loi